souhaiter d'abord souhaiter la bienvenue, souhaiter aussi la bienvenue à Mathieu Dalinage, qui est donc le directeur du centre de recherche du château de Versailles, donc pour nous parler ce soir de Jean-Baptiste Lazure, cousine. Mathieu Dalinage, vous connaissez tous, a aussi écrit un certain nombre d'ouvrages, dont vous trouverez quelques exemplaires à sortir, vous pouvez le feuilleter. Une dédicace est possible, hein, n'est-ce pas Mathieu? Et puis bon, le format de la conférence, nous l'avons changé un peu en dernière minute, parce que c'est vrai que la salle qui était prévue nous paraissait bien grande compte tenu de nos inscrits. Donc on a souhaité un format plus convivial qui fera que le temps de la dédicace ou après la conférence, de vous proposer de prendre juste un rafraîchissement, ce qui permettra de prolonger par un temps de discussion et de rencontre cette conférence. Alors une autre toute petite annonce, parce que c'était, alors je ne sais pas si tout le monde l'avait noté, en fait c'est un peu un anniversaire aujourd'hui, et cette conférence prend un sens particulier, et ça va être une surprise pour Mathieu Dalinage, je pense, parce qu'il y a à peu près presque un an, en fait, la Société des Amis de Versailles a acheté aux enchères et offert au château un manuscrit de 138 menus de Hélio, donc officier de bouche, enfin écuyer de bouche auprès de la dauphine. Et donc ce sont des menus qui sont restés inédits jusqu'à ce jour. Et donc la surprise du jour, c'est que quand le président Thierry Hortense a remis le manuscrit à Catherine Pégard, il lui a dit: je vous le donne, mais je veux avoir le scan de tous les menus parce qu'il va falloir qu'on les partage avec les amis. Et ce travail est enfin fait un an après. Christophe Foin, le photographe du château, nous a livré un certain nombre de menus, alors pas encore tous. Et donc ce soir, eh bien, on va vous remettre un menu inédit, en fait, à la fin de la séance. Mais vous avez déjà, voilà. Donc je voulais vous donner le contexte de cette surprise également. Voilà, donc merci pour votre patience, et puis je donne la parole à Mathieu.
Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir pour parler de Jean-Baptiste Lazure aujourd'hui, qui n'est pas un illustre inconnu, même si on rencontrait son nom de temps en temps dans les archives. Est-ce que je parle suffisamment fort, ou est-ce que vous voulez que je parle un peu plus fort? Donc, pardonnez-moi, je vais lire un petit peu. Je vais essayer de lire le moins possible et d'être le plus clair possible. Mais simplement pour vous dire qu'effectivement, l'intimité des grands a toujours fasciné tout le monde. Et c'est quelque chose qui fascine, en ce sens qu'à travers les faits quotidiens, il semble qu'on puisse mieux connaître les grands de ce monde et les rendre un peu plus humains. Et ceci est d'autant plus vrai pour les souverains de l'Ancien Régime. Le roi, comme je vous le rappelle, représentant Dieu sur terre, ce statut créant irrémédiablement une distance incommensurable entre le roi très chrétien et ses sujets. Alors si Louis XIV a su parfaitement gérer cet état de roi absolu, c'est-à-dire de roi au sens étymologique délié de tout lien avec ses sujets, moi pas délié de tout lien absolu, c'est délié de tout lien, c'est-à-dire sans lien. Donc il n'en fut pas de même pour son arrière-petit-fils Louis XV, lequel, qui a été orphelin et père, de père et de mère à l'âge de 2 ans, était de nature taciturne et mélancolique. Et pour contourner cette prédisposition et cette timidité, on créa pour lui des artifices, parmi lesquels la cuisine a tenu une place très importante. Et l'un des principaux artisans de cette cuisine à l'époque de Louis XV fut Jean-Baptiste Lazure, dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui. Et j'en viens à cette idée que Jean-Baptiste Lazure est une sorte d'illustre inconnu et d'un officier de la bouche du roi avant de devenir le cuisinier particulier de Louis XV. Alors, longtemps, les historiens ont évoqué simplement le sieur Lazure, sans préciser au-delà son prénom ou et dire duquel il s'agissait. Il faut savoir en fait que la famille occupe diverses fonctions dans le département de la bouche du roi depuis de nombreuses années, quand Jean-Baptiste Lazure devient l'homme clé des petits soupers du roi. Et comment j'ai réussi à déterminer qu'il s'agissait de Jean-Baptiste Lazure et non pas de Louis Lazure, de Nicolas-Antoine Lazure, de Baptiste Lazure, etc., puisque ce sont des noms que l'on retrouve parmi la maison du roi entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est vrai qu'on savait qu'il y avait un sieur Lazure au service de Louis XV, mais on n'avait pas identifié ce personnage. Et ce sont les documents d'archives qui parlent d'eux-mêmes, puisque un certain nombre de pensions qui ont été attribués au Sieur Lazur nous permettent de le situer avec certitude, son identité, et d'identifier ce personnage. Donc, je vous passe les détails, on y reviendra par la suite, sur ces différentes pensions qui ont été versées au Sieur Lazur. Il est né vraisemblablement vers 1672, alors on ne sait si c'est... Je n'ai pas retrouvé son acte de baptême à Versailles, donc il est plutôt vraisemblablement né à Paris. On le sait, cette date, en fonction de son âge au moment de son décès, puisqu'on a son acte de décès en 1748 à Versailles. Il était le fils de Louis Lazur, qui était sommelier, c'est-à-dire chef de la panetterie Bouche, et comme le rappelle, donc je vais essayer d'avancer ici, normalement, c'est pas ça, pour avancer, vous savez, dites pour... Ah, c'est de l'autre côté. Alors, est-ce que ça avance ?
Non.
Ah, vous avez appuyé sur quoi ? Voilà.
Je vais appuyer sur OK avant.
Il faut appuyer d'abord OK et après avancer.
Je pense qu'il faut appuyer sur OK quand les flèches ne sont pas apparentes.
Voilà. Bon. Mais quand la flèche est apparente, vous pouvez continuer.
Le problème, c'est qu'il faudrait que les flèches s'enlèvent maintenant. Parce que
vous... Maintenant, s'enlève tout seul.
Bon. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais en tout cas, comme le signalent les États de la France, vous savez, ce sont ces publications qui existent, qui recensent tous les officiers de la maison du roi, qui sont parus de façon alternative entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui donnent non seulement les noms des personnages en charge de la maison du roi, mais aussi leur nom, mais aussi leur activité. Je me rends compte que tout est coupé. En fait, ça va être un petit peu inquiétant. On voit donc que ces officiers avaient la fonction, leur fonction des officiers de panetterie bouche était de préparer tout ce qui regarde le couvert du roi, le pain, le linge de table et le fruit de sa majesté. Ouais. Alors que les chansonneries bouche se chargeaient du vin et de l'eau. Alors c'est assez complexe le système de la maison bouche, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est un des plus gros services, un des plus gros départements, la maison bouche du roi, puisque ça emploie énormément de monde. À la cour, les réseaux familiaux et sociaux étaient, on le sait, très importants, entraînant parfois des imbroglios privés et juridiques. C'est ainsi que Jean-Baptiste donc Lazur n'a obtenu la survivance, c'est-à-dire le droit de succéder au titulaire de la charge, n'a obtenu cette survivance d'un office de chef de panetterie bouche qu'en 1687, alors que celui de son père, qui était mort en 1675, avait été passé entre les mains d'un allié de la famille, etc. Tout ça pour vous dire que vous avez énormément de réseaux qui se sont créés à la cour, que Jean-Baptiste a perdu son père assez jeune, son père était chef de la panetterie bouche, qu'entre-temps sa mère s'est remariée avec un autre officier de la bouche qui a obtenu la charge, et donc ce n'est qu'en 1687, donc à peu près à l'âge de 15 ans, que Jean-Baptiste Lazur récupère la survivance, c'est-à-dire le droit de succéder à son beau-père comme officier de la bouche. Il dut attendre toutefois l'année 1700 avant de devenir titulaire de sa charge et il put apprendre le métier auprès de son bon père qui était Guillaume Bigot. Alors je ne sais pas si ça a un lien ou pas avec, je crois qu'il y a encore une boulangerie Bigot aujourd'hui à Versailles, oui. Et que sa mère Françoise Béraud avait épousé en troisième noce. Et donc il servait dans le quartier, c'est-à-dire le service, de janvier, février et mars à partir de 1700. Avec deux autres sommeliers, c'est-à-dire deux autres chefs de panetterie bouche, ils prenaient totalement part à la préparation de la table du roi. Ils étaient habillés en tenue de ville et servaient l'épée aux côtés. Les sommeliers du gobelet, grandement considérés, étaient-elles les plus grands officiers de la maison, choisis par le roi lui-même, puisque le grand maître de la maison du roi, qui était le chef du département de la maison bouche, qui était un condé généralement à partir de la moitié du XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ne voulait plus prendre la responsabilité de choisir les officiers de la bouche du roi pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que on avait peur d'un empoisonnement et finalement c'est le roi lui-même qui donnait son agrément, y compris pour des officiers qui étaient de moindre importance, comme les officiers, même si ce sont des chefs de panetterie bouche, c'est quand même le roi qui donnait son agrément. Alors, je vous parle tout cela de cuisine, de choses comme ça, mais est-ce que Lazur était véritablement un homme de cuisine ? Au départ, pas vraiment. Quand on connaît le goût qu'avaient les Bourbons pour la nourriture, on saisit mieux le rôle que les officiers de la maison Bush eurent ou purent tenir à Versailles. Les sommeliers étaient la partie émergée de l'iceberg de tous ceux qui avaient en charge la préparation des mets royaux. Donc c'est là où je dois essayer d'avancer. Donc je ne sais pas si je fais OK maintenant.
OK.
Et hop. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, la bouche du roi en 1702. Vous avez ici à la maison Bouche du roi. Et on voit tous ces départements. Ce sont les fameux 7 offices. Là, vous en avez 1, 2, 3. Et ensuite, si j'arrive à avancer encore, vous avez les offices communs. Vous avez 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 suivants. Puisqu'auparavant, vous en avez 2, le gobelet et la cuisine bouche. Le gobelet étant lui-même divisé entre 2 services, la paletterie et les chansonneries. Tout cela pour vous dire que ça représente à l'année plus de 154 personnes, vous le voyez, pour le gobelet et la cuisine bouche, et vous avez pour j'arrive plus à lire, 157, je ne sais pas, en tout cas, vous avez près de 400 personnes qui sont dédiés au service du roi, qui est ramené à un service quotidien, parce que ce sont des gens qui travaillaient par quartier, c'est-à-dire qu'ils étaient changés tous les 3 mois. Vous aviez à peu près 150 personnes qui étaient au service de la bouche par jour. Donc ça comprend non seulement évidemment la table du roi, mais également les tables qui étaient réservées aux courtisans, qui étaient nourries aux frais de la couronne. Alors, note l'azur, vraisemblablement, il ne mettait jamais les pieds dans les cuisines, puisque il était plus souvent dans le... Ça coupe, alors j'espère qu'on va voir la fin. Au gobelet du roi, donc là on est au niveau de l'aile du midi, sur la droite vous apercevez ce qui est l'emplacement de l'escalier des princes, c'est-à-dire que sur la droite au niveau de la flèche rouge, on arrive sur la cour des princes et après sur la cour de marbre, etc. Donc on est au niveau de l'aile du midi, sur la rue de la surintendance, et là vous avez les espaces de la bouche du roi et du gobelet, à droite la bouche du roi, à gauche le gobelet, et donc vous aviez des espaces dédiés au rez-de-chaussée, puisque les cuisines royales, par opposition aux cuisines dédiées aux courtisans, étaient dans l'enceinte même du château pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que la viande du roi ne devait pas quitter le château lui-même. Et donc, notre ami Lazur restait dans ces espaces puisqu'il n'avait à apparaître dans la pièce où mangeait le roi que plus tard. Il avait surtout, comme le démontre le cérémonial du repas royal, un service en salle et s'activait pour préparer au mieux la table du souverain en plaçant couverts, pain, linge de table et fruits, c'est-à-dire le dessert. Dans un ballet très protocolaire où chacun des officiers de la bouche servait suivant son rang, Jean-Baptiste Lazur n'était jamais en contact direct avec le souverain. Ses missions se bornaient à préparer des assiettes d'or, de porcelaine, etc. et de les présenter chaque fois à un officier plus important que lui, qui les présentait à son tour à un autre officier plus élevé. Et c'était sans doute lors du repas royal que se marquait le mieux la hiérarchie des offices, avec une multitude de niveaux, depuis le simple garçon de cuisine qui préparait la nourriture, jusqu'au grand seigneur qui présentait finalement au souverain le plat et son repas. Le fait d'armes des chefs du gobelet était de porter la nef royale. Alors, excusez-moi, c'est vrai que c'est moins pratique quand même qu'un ordinateur. Voilà. Donc, le fameux nef royal, qui est une des seules représentations qu'on ait de la nef royale de Louis XIV, qui se trouve représentée dans le salon de l'abondance, au-dessus de la porte du salon de l'abondance. Donc, le fait d'armes des chefs du gobelet était le port de la nef royale, qui marquait toute la solennité du repas pris en public au grand couvert. Véritable emblème de la puissance souveraine, cette pièce d'orfèvrerie, somptueuse en forme de vaisseau que chaque courtisan devait saluer, renfermait les serviettes dont usait le roi. Installée initialement sur la table du souverain, elle la quitta assez rapidement pour la salle des gardes. Il n'y avait plus assez de place pour toute la famille royale. En effet, au départ, vous avez une famille à un noyau assez restreint. Et au fur et à mesure que Louis XIV a eu des enfants, petits-enfants, évidemment, vous aviez de plus en plus de monde à la table du roi. À Versailles, le roi mangeait toujours en public, aussi bien à son dîner, c'est-à-dire notre déjeuner, qu'à son souper, notre dîner. Le caractère majestueux de ce repas, dit au grand couvert, durera jusqu'à la mort de la dauphine Bavière en 1690, et n'était convié à ce repas que le cercle étroit de la famille royale, c'est-à-dire les fils et filles, petits-fils et petites-filles de France, même si de temps en temps Louis XIV autorisait certains légitimés à manger avec lui, parce qu'il ne voulait pas, c'est Saint-Simon qui nous le raconte, il ne voulait pas se retrouver en tête-à-tête avec son fils uniquement, et donc il conviait parfois Mademoiselle de Blois, parfois le duc du Maine, etc., ce qui évidemment horrifiait Saint-Simon, mais c'était uniquement lorsque, par exemple, monsieur et madame étaient à Saint-Cloud dans des cadres bien particuliers. Le service à l'époque se faisait indifféremment chez le roi ou chez la reine, c'est-à-dire que le roi en général se rendait quand même plus généralement dans l'antichambre du grand couvert de la reine, du vivant de la reine, avec chez la dauphine également, même si ça pouvait se tenir chez lui. À partir de la mort de la dauphine, il s'est rendu vraiment dans ses appartements. Mais ce fait d'être indifféremment chez le roi ou chez la reine, ça créait quelques bizarreries, puisque chaque convive qui était placé du côté de chez la reine ou de chez la dauphine mangeait des plats apprêtés par la bouche de la souveraine et était servi par ses officiers, tandis que ceux qui étaient du côté du roi mangeaient par les officiers, étaient servis par les officiers du roi avec des plats apprêtés par les officiers du roi. Donc vous voyez un petit peu la complexité de l'étiquette à ce moment-là. Après la mort de la dauphine, apparue par opposition, donc la mort de la dauphine en 1690, la dauphine Bavière, apparut la notion de petit couvert, repas toujours pris en public, mais avec moins d'apparat. Le grand couvert était désormais réservé pour le souper, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du grand couvert, on ne pense qu'au souper, mais jusqu'en 1690, ce repas public familial avait lieu et le midi et le soir. À partir de 1690, il n'est réservé le souper au grand couvert. Le grand couvert n'est réservé qu'au repas du soir, et c'est finalement dans une pièce que vous connaissez par cœur, alors qui est une vieille photo, pardonnez-moi, de l'antichambre du grand couvert du roi, donc qui est la première antichambre de l'appartement du roi, qui précède la seconde antichambre. Donc derrière, on est au niveau de l'antichambre de l'œil de bœuf, où le roi prendra son repas et il prendra ses habitudes ici. À partir de 1690, et malgré l'arrivée de la duchesse de Bourgogne en 1696-97, il ne retournera jamais chez la reine puisqu'il aura pris ses habitudes ici, dans ses appartements. Lors du petit couvert, il n'y avait ni nef ni cadenas. Le cadenas, c'était une sorte de petit coffre de métal précieux dans lequel se trouvait le couvert du roi. Et le maître d'hôtel ne portait pas le bâton de commandement pour orchestrer le service. Le roi était servi directement par son grand chambellan ou, le cas échéant, par son premier gentilhomme de la chambre en année qui prenait ses plats directement des mains des officiers de la bouche du roi. Parmi tous les officiers en charge du département de la bouche du roi, quelques-uns seulement étaient à même d'accéder au souverain et seuls les chefs du gobelet, les écuyers ordinaires et l'huissier de salle semblaient participer au service du grand et du petit couvert du roi. Donc les chefs du gobelet, c'est notre ami l'Azur. Et encore n'intervenait-il que très ponctuellement et dans des charges évidemment serviles, des fonctions serviles. Avant l'arrivée du roi, c'était aux officiers du gobelet, donc l'Azur, de préparer la table du prêt pour faire l'essai devant un gentilhomme servant. Il s'agissait notamment de frotter les couverts du roi avec de la mie de pain, qu'un chef du gobelet devait manger pour montrer que les ustensiles dont ce service avait la charge n'étaient point empoisonnés. Les officiers du gobelet préparaient ensuite la table royale, qu'achevait de dresser un gentilhomme servant, et finalement l'ordre était donné pour le début du repas, et l'huissier de salle frappait de sa baguette la salle des gardes du roi en annonçant « Messieurs, à la viande du roi », avant de se rendre à nouveau à l'office bouche où se mettait en route un important cortège. Alors, j'ai fait normalement des effets d'apparition de choses, et à mon avis, rien ne va apparaître parce que ça doit être trop compliqué. L'appareil qui ne doit pas supporter. Alors, normalement, vous aviez le trajet de la viande du roi depuis le rez-de-chaussée de l'aile du midi, où le cortège qui est escorté par des gardes du corps, des huissiers avec des masses d'armes, d'argent, etc., emprunte l'escalier des princes, traverse la salle actuellement de 1792, etc., et se rendait avant 1690 soit chez la reine, soit chez le roi. Et donc vous aviez le trajet que vous pouvez imaginer, comme vous connaissez tous par cœur, le château de Versailles. Alors, le trajet ne durait pas plus de 5 minutes. Il avait dû néanmoins se frayer un chemin au milieu de la foule qui se pressait pour voir manger le roi accompagné au nom de sa famille. Tous les courtisans « connus » entre guillemets ou qui avaient pu être présentés étaient autorisés à contempler ce spectacle. Donc vous imaginez, j'avais dû vous mettre un beau spectacle puisque je vois que je m'étais mis une figure. Alors on va avancer parce que ça ne sert à rien. Hop. On va essayer d'avant. Ah, il y a des choses qui apparaissent. Voilà. Normalement, il y a des choses qui apparaissent. L'ensemble des assistants étaient debout, à l'exception de quelques dames titrées qui avaient le droit du tabouret, c'est-à-dire un ployant en forme de X. Désormais, c'était aux officiers de la bouche les plus importants et déjà présents sur place, en l'occurrence le grand maître et le premier maître d'hôtel en premier lieu, que revenaient les tâches les plus nobles de parade, et le repas était rondement mené par le maître d'hôtel du jour qui dirigeait toutes les opérations et le bâton à la main, signe de son commandement. Alors, ah si, il y a des choses qui apparaissent, il y avait mon petit bâton de commandement qui apparaissait, et là, mon portrait Louis XV qui n'apparaît pas, qui doit être trop lourd, c'est dommage, c'est un beau portrait, mais c'est le portrait que vous connaissez, où il est avec ses diamants, avec ses très beaux, ce très beau costume noir, avec les manches très belles, peut-être qu'il va finir par apparaître. Et j'en viens maintenant vraiment au cœur du sujet avec Louis XV, et Louis XV, les repas et la sociabilité au XVIIIe siècle. Louis XV, tout comme son bisaïeul, est devenu un roi très jeune. Donc là, vous imaginez le portrait de Louis XV très jeune. Et si Louis XIV avait encore sa mère pour l'épauler et le guider, il n'en était rien pour le nouveau souverain le 1er septembre 1715. Voilà donc un petit garçon de 5 ans obligé d'embrasser les habits de monarque bien trop grands pour lui et surtout obligé de suivre une pesante étiquette imposée par son prédécesseur. Parmi les grands temps de cour, les repas sont, on vient de le voir, un des grands moments de la journée. Après être passé par Vincennes quelques mois, Louis XV revient à Paris en compagnie du régent. On sait que Louis XIV avait mis dans son testament qu'il souhaitait que la cour se retire après sa mort à Vincennes où l'air était réputé plus pur. On sait également que Philippe II d'Orléans, le neveu de Louis XIV, était très parisien et a ramené tout le monde à Paris dès le mois de décembre 1715. Le régent au palais royal et le roi aux Tuileries. Pour distraire le jeune souverain et parfaire son éducation, on lui aménage un certain nombre de petits cabinets, que cela soit à Paris ou à Versailles, notamment lors du retour de la cour dans cette ville en juin 1722. Enfin, je ne sais pas si mes tableaux vont passer, parce que si c'est... ça va être très inquiétant. Si, ça devient tout de suite moins intéressant. Le tableau de 1722 de Pierre-Denis Martin que vous connaissez peut-être de la cour. Je ne sais pas si on peut essayer peut-être de brancher l'ordinateur parce que ça devient un petit peu... Je suis désolé. On va voir si... parce que les images ont l'air d'être trop lourdes.
Oui. À se télécharger.
À se télécharger. Oui. Vous voulez que je prenne
la... Merci, madame.
Ouais.
Non.
Vous voulez que je mette sur stop ou...
Non, c'est pas grave.
Hop. On va essayer de brancher avec ça, peut-être. Non, je ne sais pas.
La prise est là.
Bon signe.
Oui.
Je sais plus la télécommande.
Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ?
La télécommande. Allez là. Oui. Ah ! On voit. Bien. Ah. On va y arriver. Voilà donc le fameux portrait du retour de la cour à Versailles. Et en 1722, les mémoires du marquis de Calvière, qui était l'écuyer qui avait appris à Louis XV notamment à monter à cheval et qui faisait partie de cette petite garde rapprochée qu'il avait autour de lui à ce moment-là, qui était beaucoup plus âgé que Louis XV, mais il y avait un certain nombre de personnages autour de lui, dont ce marquis de Calvière, nous montre l'ensemble de ses activités où l'on peut déceler un goût prononcé du monarque de 12 ans pour la cuisine. Ainsi, le 2 mai 1722, l'écuyer mentionne-t-il, le roi fut faire du chocolat dans la chambre de Chansonnet, il s'agit de Louis Pantin, le marquis de Chansonnet, qui était le premier valet de chambre, et ensuite fut auprès de Coustou le cadet, qui modelait en terre grasse le buste de sa majesté. De même, le 8 mai suivant, on apprend que le roi voulut lui-même faire des omelettes et œufs en chemise. Je lui montrai à les faire à la fanatique sur le poêle rouge, mais cet amusement lui fut interdit. Cette dernière proposition est très intéressante car elle montre la forte prégnance du duc de Villeroy, bridant le jeune souverain dans des plaisirs sains et anodins, mais peu royaux aux yeux du gouverneur choisi par Louis XIV. C'est pourtant par la cuisine que Louis XV va réussir à surpasser sa grande timidité. Le cardinal de Fleury, vous avez ici un portrait très connu, lui avait prouvé l'importance d'organiser des repas plus intimes, notamment après le retour de la chasse, pour entretenir son pouvoir de dispensateur des grâces. Tout comme sous Louis XIV et les fameux Marly, être invité à ces soupers privés marquait une véritable reconnaissance que tout grand seigneur se devait d'atteindre. L'étiquette n'était donc pas en rupture avec ce qui se faisait du temps de Louis XIV, mais plutôt en évolution. Et ces soupers étaient les mariés, les trianons d'autrefois. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que l'étiquette à l'époque de Louis XV avait tendance à être bien moindre que sous le règne de Louis XIV. En fait, elle s'est transformée. Si on peut parler éventuellement de dégradation, si on peut parler de terme, c'est beaucoup plus sous Louis XVI que sous Louis XV. Louis XV sait parfaitement ce qu'il faisait et connaissait parfaitement les règles de l'étiquette et jouait avec pour donner, comme l'aurait dit Saint-Simon, des signes à des riens, et en tout cas se permettre d'arbitrer systématiquement à la cour. Donc, plutôt que des Trianon ou des Marly, où c'était un honneur d'aller sous Louis XIV, Louis XV va créer ces fameux petits soupers, et vous verrez que c'est assez difficile de distinguer les différents petits soupers de Louis XV, et qu'il y a différentes époques pour tout cela. D'ailleurs, à l'instar de son bisaïeul, le roi dressait lui-même sa liste d'invités qu'il donnait à un huissier pour faire entrer les heureux élus dans ses cabinets intérieurs. Il ne faut cependant pas confondre ces soupers des retours de chasse avec les soupers particuliers, appelés les soupers des petits cabinets, que nous détaillerons plus loin, et que le duc de Luynes a lui aussi raconté dans ses mémoires. Alors, ces premiers, c'est-à-dire les soupers des retours de chasse, se déroulaient généralement au premier étage, dans les cabinets du roi, dans une salle à manger spécifique, et pour lesquelles le roi dressait lui-même la liste. Et voici ce qu'en disait le duc de Luynes le 8 février 1737. Le roi soupa avant-hier dans ses cabinets. Il y soupe presque toujours au moins une fois la semaine. Ses soupers commencent ordinairement à 7h ou à 7h30. Ceux qui veulent se présenter pour avoir l'honneur de souper avec Sa Majesté entrent dans le cabinet s'ils ont les entrées. Sinon, demeurent dans la chambre à la porte du cabinet. Le roi sort un moment de son cabinet, regarde ceux qui se présentent et rentre aussitôt pour faire la liste. L'huissier nomme ceux qui sont sur cette liste, lesquels entrent à mesure qu'ils sont appelés et vont se mettre à table aussitôt. Ces soupers durent ordinairement jusqu'à minuit ou environ. Ils ne se font presque jamais que les jours de chasse. Dans les commencements même, quelquefois le roi faisait appeler en général ceux qu'il avait suivis à la chasse dans ses carrosses. Mais pour donner plus de facilité aux courtisans d'avoir l'honneur de souper avec Sa Majesté, elle veut bien nommer ceux qu'elle juge à propos de faire entrer. Cependant, le plus grand nombre est de ceux qui ont l'honneur de suivre le roi à la chasse, et même dans ses carrosses, quoiqu'il y en ait souvent de ceux-là de refuser. Je ne rentre pas dans les détails parce que dans chaque phrase de Luynes, vous avez des points d'étiquette très précis qui peuvent être discutés, mais en tout cas, vous voyez à peu près ce qu'il en était des soupers des retours de chasse. Alors, on le voit dans un premier temps, ceux qui avaient chassé avec le roi pouvaient y prétendre, comme le prouve également cette mention dans le journal du duc de Crouy, qui y fut convié pour la première fois le 21 novembre 1739 et qui écrivait « Le 21, le roi alla à la chasse dans sa voiture à 6 places et me fit la grâce de m'y faire monter, en allant et revenant sur ses genoux. » Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi sur ses genoux, mais je pense que ça devait être devant le strapontin. Mais je ne vois pas le duc de Crouy assis sur les genoux de Louis XV. C'était la première fois que j'eus cet honneur et la première fois que je chassais le sanglier avec le roi. L'on en tua 4. Le soir, il me fit encore la grâce de me nommer pour souper dans ses cabinets. C'était la première fois, or en 1736, que j'avais eu cet honneur en public à Compiègne, étant mousquetaire. Nous étions 15 hommes. Durant les années 1720-1740, coexistaient donc 3 types de repas pris en particulier. Les soupers des retours de chasse, pris au premier étage dans les différents lieux avant d'arriver dans la fameuse salle à manger que l'on voit aujourd'hui, qui date de 1755, celle qu'on appelle aujourd'hui la salle à manger des retours de chasse, qui était au bout, après l'antichambre des chiens, au niveau du degré du roi, là, vous voyez la salle des retours de chasse. Donc, auparavant, ça avait un petit peu navigué dans ces différents espaces ici. Donc, il y a ces fameux soupers des retours de chasse pris au premier étage. Vous avez également les soupers des petits cabinets qui se tenaient au deuxième et au troisième étage. Et enfin, une sorte de mix entre les soupers des retours de chasse et les petits cabinets. Et c'est vrai que lorsque j'ai préparé cette communication, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver et je pense que c'était assez compliqué déjà à l'époque et que tout ça était panaché de la part du roi pour distiller ses grâces de façon parcimonieuse. Donc ces repas se prenaient notamment pour le sorte de mix là, tantôt chez le roi, tantôt chez la favorite du moment, et en l'occurrence par la suite chez Madame de Pompadour. Et par la suite, bien après la mort de l'Azur, tout cela fut une nouvelle fois réorganisé, et un service intérieur spécifique, le service des petits appartements, vit le jour en 1759. Il était placé sous la houlette de son premier valet de chambre de service, c'est-à-dire le premier valet de chambre en quartier, qui entretenait sur la cassette personnelle de 300 000 livres qu'il recevait pour son quartier, tout un personnel particulier ou encore quelques garçons intérieurs prélevés chez les garçons de la chambre du roi, dépendant généralement du gouverneur de Versailles, donc c'est-à-dire le duc de Noailles. Et tout ce personnel n'apparaît pas dans la liste du personnel du château. Ils apparaissent par ailleurs s'ils sont garçons du château, etc., mais ils n'ont pas d'office, c'est-à-dire un office, ce sont les fonctionnaires de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être démis sauf à commettre un crime de lèse-majesté, etc. Ils n'ont pas de commission, vous savez, des commissions, ce sont des gens comme les ministres qui sont nommés et révocables, donc c'est vraiment quelque chose d'assez opaque ou ce sont des gens qui servent selon le bon vouloir du premier valet de chambre du roi qui a la main sur, sur ce service. Tous ces soupers ne se faisaient pas uniquement à Versailles, mais aussi dans toutes les autres résidences royales, telles que la Muette, Saint-Hubert ou encore Choisy, château pour lequel on a conservé énormément de menus. Si vous allez sur le site du centre de recherche du château de Versailles, vous verrez, on a compilé l'ensemble des menus de Choisy, dont vous avez ici un exemple. C'était des véritables œuvres d'art de la main de Brun de Sainte-Marie, qui était obligé d'inventer à chaque fois, pour chaque nouveau menu, un nouveau décor en luminure pour ces menus qui étaient les petits soupers du roi. J'en viens maintenant à la naissance des soupers des petits appartements et qui concernent véritablement l'azur, et voir que très vite Louis XV avait saisi l'importance qu'il avait à élargir le cercle des personnes qu'il conviait lors des retours de chasse pour bien marquer l'honneur qu'il faisait à ses courtisans. Les habitués en seront le duc d'Antin, le comte de Noailles, le duc de Richelieu, le maréchal de Saxe, le prince de Soubise et de temps en temps les ducs de Luynes ou encore de Crouy. Passé la porte de ces appartements privés, les convives jouissaient alors de la privance de leur souverain durant toute la durée du repas, soit 2 heures environ, avant qu'une partie de jeu s'ensuivît. Le roi préparait lui-même le café que chacun se servait, et toute cette petite société choisie avait tout loisir de voir son souverain dans ses plus simples habitudes. Lui, généralement mélancolique, s'humanisait dans ces moments où il se sentait véritablement à son aise, et si l'étiquette y était plus souple qu'à l'accoutumée, il n'était pas question d'attitude ou de propos licencieux. Parce que, évidemment, comme tout ce qui est caché à Versailles, on a évidemment les mauvaises langues qui commencent à parler sur ces soirées un petit peu, on va dire, particulières, mais qui ne sont pas des soirées particulières, qui sont des soirées où le roi est effectivement plus libre avec ses courtisans que lorsqu'il est en représentation. Mais les témoignages qu'on en a eus, des témoignages directs, nous prouvent qu'il n'y avait absolument pas ce qu'on avait pu en lire à cette époque-là. Évoquant la rénovation du château de Compiègne en 1738, le duc de Luynes, dans ses mémoires, écrivait depuis Versailles le 27 juillet, donc ici vous avez un témoignage de Luynes, « À l'heure que le roi doit souper, madame la duchesse, les princesses et les dames qui les ont suivies, tout en robe rabattue avec les paniers, se rendent dans la seconde antichambre dont j'ai parlé. On ouvre aussitôt la porte et elles entrent dans la grande chambre. » Donc là, on est à Compiègne. Hein, « Dans la grande chambre et dans le cabinet d'après celui du conseil. Ensuite, le roi nomme ceux qui doivent souper, comme cela se fait ici, c'est-à-dire à Versailles, et on se met à table sur le champ. Pendant que j'y étais, madame la duchesse était au milieu de la table, ayant monsieur le duc à sa droite et le roi à sa gauche. Mademoiselle à gauche du roi et mademoiselle de la Roche-sur-Yon à la droite de monsieur le duc. Tout le monde, le roi même, est servi par des garçons bleus ou garçons du château. Mais le service est facile car chacun a son verre dans un seau devant soi et l'eau et le vin sont sur la table. Le sieur Lazur, qui a soin ici des cabinets, sert sur table comme il fait à Versailles. On le voit, au-delà des hommes, les femmes furent progressivement admises, puisqu'au départ c'était uniquement les retours de chasse, furent progressivement admises dans les soupers intimes. Cette pratique s'intensifia avec les favorites que Louis XV commença à avoir au début des années 1730. Et sa première liaison connue avec la comtesse de Mailly, dont vous avez ici un portrait, commença secrètement en 1733. Et comme serviteur intime du roi, Lazur fut donc l'un des tout premiers observateurs privilégiés de cette relation qu'avait provoquée François-Gabriel Bachelier, qui était un premier valet de chambre du monarque, et qui faisait le rôle de chevalier servant, pour être poli, avant Lebel, qui est le prédécesseur de Lebel, dans son rôle auprès des jeunes femmes et de Louis XV. Lazur n'approuvait sans doute pas cette situation, mais il n'y fit aucune objection, et preuve du caractère caché de cette liaison, le marquis d'Argenson n'en fit état dans ses mémoires qu'en janvier 1737, et il dit « Cela s'est accompli dans les entresols du roi, un nommé Lazur en est le concierge. Il a sous Louis un second qui amena cette dame. C'était l'hiver dernier, elle parut derrière un paravent. Le roi était honteux, il n'attira pas sa robe. Elle dit qu'elle avait grand froid aux pieds. Elle s'assit au coin du feu. » Dès lors, la comtesse participa au souper des appartements et inaugurait la série des cinq sœurs de Nell qui devaient se partager l'une à la suite de l'autre les faveurs royales. On va en venir maintenant au lieu de ces petits soupers. Et si Louis XIV pouvait déjà prendre ses repas en particulier, le cérémonial en cette occasion, même allégé, demeurait encore très important au regard de ce qu'il devint au début du règne de Louis XV. Avant cette époque, la régence et le début du règne de Louis XV, il serait totalement illusoire d'imaginer que les lasures fussent des cuisiniers. On l'a vu, ils n'étaient autres que nos chefs de rang dressant la table avec des nappes, des couverts et des assiettes. Ce statut allait changer au tout début du règne de Louis XV, qui fut bien plus timide que son arrière-grand-père, on l'a dit. Après la mort de Louis XIV, la cour a abandonné Versailles pour n'y revenir qu'en 1922, et pour, on l'a dit tout à l'heure très rapidement, on a aménagé pour le jeune Louis XV, ici en 1723 avec la petite infante qui était promise au souverain, mais c'est pour vous donner une image de Louis XV à peu près en 1723, on a aménagé à ce moment-là plusieurs cabinets à l'intérieur de Versailles, plusieurs espaces qui prirent place au deuxième et troisième étage autour des cours intérieures et dont la première, à l'ouest, fut rebaptisée l'année suivante cour des cerfs, après qu'on l'eut ornée de 24 têtes de cerfs et de daims en plâtre coiffés de bois véritable. Outre une distillerie et une confiturerie, on notait aussi, dès 1722, alors excusez-moi, c'est une très mauvaise photocopie, mais d'un article que vous connaissez de Jean-Claude Le Guillou, où on voit ces espaces, et on voit ici le laboratoire de l'azur et tous ces espaces ici. Donc vous avez ici donc la terrasse de l'azur en 5, voilà, tous ces espaces qui sont la chambre de l'azur ici en 2. Vous voyez très proche puisque la cour des cerfs est ici, et donc là on est au niveau de la chambre du roi au premier étage. Donc on voit qu'il y a un laboratoire du roi dont l'azur est clairement spécifié dans les archives en 1722 comme en étant responsable, mais on dit toujours le sieur l'azur, on ne dit pas son prénom, qui était en fait plusieurs pièces sous la houlette du sieur l'azur, je cite, gardien du laboratoire du roi, à commencer du 1er octobre de la dite année 1722. Donc on voit qu'il y est dès le début de la réinstallation à Versailles. Donc, pièce qui se distribuait à l'attique entre la partie septentrionale et occidentale de la cour des cerfs. Louis XV disposait déjà d'une petite cuisine où il pouvait préparer quelques petits plats simples, sans four ni rôtissoir. L'azur y possédait, au-delà de l'escalier semi-circulaire, un petit appartement de service mansardé, avec deux premières pièces en forme de trapèze sur la partie occidentale, tandis que la dernière, dite cabinet l'azur, une pièce en retour sur la partie méridionale, était vraisemblablement sa chambre, situé au-dessus du cabinet des perruques et ouvrait avec une porte-fenêtre sur une terrasse nouvellement créée. Donc c'est toute cette partie-là, ici. Plusieurs aménagements se firent dans les années suivantes, entre 1726 et 1725, et le laboratoire et le logement de l'azur se déplacèrent finalement dans les parties orientales et septentrionales de la cour des cerfs. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. On était auparavant par ici, on passe par là. Et par la suite, donc je vais avancer, finalement, on va repasser par là, l'appartement l'azur va revenir par ici. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche d'ailleurs.
Non.
Ah oui, parce que moi je la vois. Je la vois, mais vous ne la voyez pas.
Non.
Pardonnez-moi, donc depuis tout à l'heure, je vous montre des choses que vous ne voyez pas.
Non.
Donc on est dans cette petite. Alors, on revient. Là, on est plutôt dans les parties rouges au milieu. Pour l'azur, auparavant, c'est plutôt les 2, 3, 4, 5, tout ça. Après, on est plutôt dans les 8, 15, 14, 13. On est parti dans cette partie au milieu, dans la petite, entre la petite cour et la cour des cerfs. Et finalement, là, on repart dans l'espèce de décroché qui est dans la voûte du 5, 6 au niveau du semi-circulaire, 6, etc. On est au niveau de la voûte du salon de la guerre. Voilà. Donc tout ça est très complexe, hein. Je vous invite à re-regarder les articles de Jean-Claude Le Guillou et à bien vous accrocher parce que il faut bien maîtriser, même en maîtrisant le château on a un peu de mal à comprendre tous ces espaces, d'autant plus qu'ils ont disparu et que ce ne sont plus du tout la même distribution.
Et
dommage que vous n'ayez pas.
Oui. Oui, et puis j'aurais dû surtout vous les entourer, ça aurait été beaucoup plus simple. Le chef du gobelet, donc, c'est-à-dire l'azur, pouvait ainsi jouir des terrasses qui couraient tout autour de la cour des serres. Il y a aussi l'installation à l'attique méridionale. Merci. Voilà. J'en ai un maintenant, mais c'est... Voilà. Voilà. C'était par là. Merci. Voilà. Le chef du gobelet pouvait ainsi jouer de terrasses qui couraient tout autour de la cour des serres. Il y eut aussi l'installation à l'attique méridionale de la petite cour du roi, d'une cuisine avec tout le matériel nécessaire, four, rôtissoir, cheminée, plusieurs fourneaux, pour la préparation de repas complets. Le laboratoire faisait la jonction entre les deux cours, donc par là, entre les deux cours, et à l'est, et les terrasses et la salle à manger à l'ouest. À partir de dès 1735 naissait le Palais Lazur sur la partie sud de la petite cour du roi, par ici. Et ce sont dans ces espaces, notamment dans les différentes galeries autour des terrasses, que seront installés les fameux tableaux de Nicolas Lancret, Le déjeuner de jambon, et celui que je vous avais mis, Le déjeuner d'huître, bon, qui sont maintenant à Chantilly. Mais c'était des commandes qui avaient été faites en 1734 pour le roi, et qui les a installés précisément dans ces espaces privés, dans le palais Lazur. Et on voit que finalement, Lazur était alors au fait de sa gloire en 1735, et la pension annuelle dont il jouissait, déjà, fut encore augmentée le 15 septembre 1736, et on a ce brevet d'augmentation qui, par les différentes dates qu'il donne, ne laisse aucun doute sur l'identité du personnage, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait toujours dans les sources du Sieur Lazur, et voilà ce que disent les sources. Le roi étant à Versailles, donc on est le 15 septembre 1736, le roi étant à Versailles voulant donner à Jean-Baptiste Lazur, l'un des sommeliers de panetterie de sa bouche, des nouvelles marques de la satisfaction qu'elle a de ses services, sa majesté lui a accordé la somme de 500 livres d'augmentation de pension, pour, avec les 1500 livres qu'elle lui a ci-devant accordés par brevet des 30 mars 1722, vous voyez qu'il correspond vraiment à ces petits cabinets et ce que nous disait le marquis de Calvière avec le sieur Lazur, etc., et 25 mars 1730, faire la somme de 2000 livres de pension annuelle. C'est d'ailleurs à cette même époque que Jean-Baptiste Lazur se portait acquéreur, le 15 juillet 1735, d'une maison à Versailles, moyennant la somme de 7000 livres. Marié par contrat signé à Paris le 28 août 1694 à Anne Geste du Buisson, donc Geste comme un geste du Buisson, dont il se sépara quant au bien en 1703, vous voyez quand même assez rapidement, la fille d'un bourgeois de Paris, Lazur n'eut qu'une fille, Anne-Louise, qui a atteint l'âge adulte. Il la mariait par contrat signé à Paris le 6 février 1736 à François-Abraham-Marie Mouchard, on y reviendra parce que c'est très important, donc sa fille Anne-Louise Lazur, qui est mariée en 1936 à François-Abraham-Marie Mouchard, alors survivancier de son beau-père comme chef du gobelet. On était avec ces espaces compliqués des petits appartements du roi et aux destinations changeantes sans cesse, véritablement au cœur de l'intimité royale. Seuls les plus proches du roi et ses domestiques les plus indispensables étaient autorisés à parcourir ces lieux cachés où Louis XV, qui n'avait pas l'aisance de son bisaïeul en public, préférait largement se retirer en son particulier pour vivre pleinement ses plaisirs. Pour vaincre la timidité maladive dont souffrait Louis XV, tout était bon à l'entourage du roi pour l'acclimater aux autres. Le souper en particulier se présentait comme l'un des remèdes. Et le chroniqueur Barbier, le chroniqueur parisien Barbier, notait ainsi dans son journal pour l'année 1732, alors que l'on accusait le roi de ne savoir, je cite, ni entendre ni parler, voilà ce qu'en disait Barbier. Le roi est bon, a une mémoire excellente, sait parfaitement les mathématiques, en raisonne bien. Et ce n'est pas peu à un jeune homme qui est roi de mordre à ses sortes de sciences. Il raconte mieux que personne. Mais pour cela, il faut qu'il soit avec son monde et en particulier. On dit que les soupers qu'il fait au Bois de Boulogne avec M. le duc d'Antin, donc c'est-à-dire le directeur général des bâtiments et le fils légitime de Mme de Montespan, M. le duc de Noailles, M. le marquis de Pezé et autres, qui sont tous gens d'esprit, sont fort gais. Le roi est très timide et n'aime point à représenter. Il a une discrétion qui va jusqu'à la dissimulation. Avant d'organiser ces petits soupers, le monarque avait appris à lui-même à cuisiner, on l'a vu, même si son gouverneur, le maréchal de Villeroy, lui interdisait ses pratiques triviales. Il put s'y adonner après sa majorité, atteinte en 1723. Et dès 1726, ses petits appartements de l'attique avait été doté d'un four à pâtisserie, mais aussi de potager, pour garder les plats au chaud. Avec le développement de ces pièces jusqu'en 1735, et la naissance d'espaces dédiés à la cuisine, mais aussi et surtout une salle spécifique pour manger, le roi créait donc la convivialité. Louis XV, en cette occasion, prélevait dans son service de la maison de bouche plusieurs officiers ordinaires qui œuvraient non seulement pour le service des appartements au premier étage, donc là, c'est les différenciations entre les soupers et des retours de chasse plus officiels, mais aussi pour le service des petits cabinets qui se trouvaient au deuxième ou au troisième étage, suivant les époques, en fonction des réaménagements des appartements. Et c'est là qu'officier Lazur, qui était devenu pour l'occasion son cuisinier personnel, c'est-à-dire que c'est lui qui avait la haute main sur ses soupers des petits cabinets. J'en viens à la fin de Lazur, qui est chassé mais récompensé. De 38 ans son aîné, Lazur n'eut sans doute pas à l'égard de Louis XV la même bienveillance qu'il aurait pu avoir s'il avait été plus proche en âge. Malgré cela, il n'outrepassa jamais sans doute son rôle et conserva tout le respect qu'il devait à son roi. Il vit les jeux de pouvoir de la cour dont il fut une victime collatérale. Bonne mais s'ennuyant à mourir, la comtesse de Mailly fit venir à Versailles en 1739 sa sœur cadette, la récente comtesse de Vintimille, que vous avez ici, et bien mal lui en apprit, puisque cette dernière, de 2 ans plus jeune que sa sœur, plus sensiblement au souverain, qui dédaigna ostensiblement sa première maîtresse, et la nouvelle favorite était bien plus ambitieuse que la comtesse de Mailly, et entendait bien régner à la cour et n'être pas la proie comme sa sœur des différentes coteries. Pour cela, elle devait marquer son territoire et s'affirmer. Elle eut en 1741 un fils, Charles de Vintimille, que d'aucuns savaient être du roi et que l'histoire a retenu sous le nom de Demi-Louis, puisqu'il lui ressemblait tellement que Louis XV ne pouvait nier être son père. Après un accouchement difficile, elle mourut une semaine plus tard, le 9 septembre 1741. Elle avait pris toutefois soin, peu de temps avant sa mort, comme l'affirme le marquis d'Argenson, le 25 octobre 1741, de marginaliser Lazur. Voilà ce que dit d'Argenson. « Tout souper des cabinets sont désormais rompus, ce qui est une épargne. C'est Madame de Vintimille qui en a dégoûté le roi, en lui prouvant que Lazur volait son vin de champagne. Le roi ne fait plus de liste de souper. Il dit à l'oreille de ceux qu'il veut inviter, « Venez souper ce soir avec moi. » Alors, malgré cette mort prématurée de la comtesse de Vintimille, qui provoqua un regain d'intérêt, certes provisoire, du roi pour la comtesse de Mailly, le doute était instillé. Lazur avait été, sous la vie, hein, mais qui est celui qui a écrit les mémoires apocryphes de Richelieu, mais qui sont quand même empreints de réalité, voilà ce qui est écrit sous la vie. Lazur avait été congédié, à cause de lui, des petits appartements et des soupers secrets, car Lebel, donc à cause de lui, c'est Lebel, le premier valet de chambre, étant de belle humeur pour servir le roi dans ses plaisirs, et Lazur n'en ayant ni les talents ni la volonté, on chassa le valet qui avait des principes sévères, de la probité et des mœurs pour placer Lebel, homme immoral, qui n'avait que le talent de plaire à son maître. Alors finalement, contrairement à ce que pensait sous la vie, Lazur ne fut pas écarté à l'instigation de Madame de Mailly, mais bien à celle de sa sœur, c'est-à-dire Madame de Vintimille. Louis XV ne les désavoua pas complètement, mais le fit alors quitter le château pour le grand commun, dont vous avez ici le troisième étage avec retombe et l'appartement, ah oui, j'allais vous montrer, de Lebel n'est pas un petit appartement puisqu'il est ici, avec ce retour ici, donc c'est tout ça. On est sur la rue de la Surintendance, c'est-à-dire la rue de l'indépendance américaine ici, donc l'entrée principale au rez-de-chaussée est ici. Donc là, on est à peu près à l'angle de la rue Pierre de Nola, qui est donc l'appartement de Lazur était ici. Là, vous avez avec les retombes. Alors attendez, moi je vois pas très bien. Et là, sans retombe, mais ce que je voulais vous montrer, mais on le voit pas très bien. Vous allez me faire confiance. Vous avez des potagers ici pour les cuisines. C'est-à-dire que les appartements disposaient de cuisines et c'est quand même un très grand appartement. Donc il gagne en espace et donc il quitte le grand commun. On a pour preuve la transformation du palais Lazur dès la fin de l'année 1741, donc dans les attiques que je vous ai montrées tout à l'heure, avec d'autres pièces adjacentes, il confectionnait un appartement que la surintendance des bâtiments, dans ses plans, retenait sous le nom d'appartement de Madame de Mailly, qui n'avait pas prévu sa mort, donc ça sera plutôt pour l'appartement du Madame de Vintimille, puis Madame de Châteauroux, puis etc., toutes celles qui se succéderont. Et en fait, à en croire le duc de Crouy, cela était bien plus compliqué que ça, cette idée de la fin des soupers des petits appartements, puisque cette fin provisoire des soupers correspondait bien plus à la tristesse du roi, puisque voilà ce qu'en écrit le duc de Crouy le 25 mars 1742, jour de Pâques, j'allais à Versailles où je fis ma révérence comme arrivant au roi et à la famille royale. La cour était triste, y ayant peu de monde, et le roi ne laissant plus souper les seigneurs qui le suivaient à la chasse, depuis la mort de Madame de Vintimille, dont il avait été inconsolable. Il avait réglé qu'il n'entrerait plus dans les cabinets que deux ou trois des favoris intimes et amis de Madame de Mailly, qui était toujours dominante. Retenu comme premier valet de garde-robe le 18 janvier 1742, Dominique Guillaume le Bel s'affirmait désormais dans les petits appartements du roi auprès de Bachelier, où il n'y avait plus de place pour l'azur. Au moment où il signa le 24 mars 1742 le brevet d'augmentation en parchemin de 1000 livres de sa pension, l'apportant ainsi à 3000 livres annuels, et, je cite, « voulant donner à Jean-Baptiste Lazur, l'un des sommeliers de Pantrie de sa bouche, des nouvelles marques de la satisfaction qu'elle a de ses services », Louis XV se souvenait certainement que ce fut Jean-Baptiste Lazur qui le premier lui permit d'affirmer ses goûts personnels face à une vieille cour encore retorse à toute nouveauté. J'en viens à sa mort et à la postérité de Lazur. Lazur, avec les soupers des petits appartements du roi, avait mis en place et inauguré un système qui se maintient, malgré quelques aménagements, bien après son départ, et que le duc de Crouy, enfin admis à y paraître plus souvent, décrivit par le menu, pardonnez-moi le jeu de mots, dans son journal le 30 janvier 1747. Alors, bien que la description en soit longue et plus tardive, il faut reprendre ici, dans l'ordre entier, ce récit précis qu'on a fait de Montmorillage. Donc, je vais vous le lire. Ayant chassé, on est en 1747. Ayant chassé à l'ordinaire, le roi me marqua sur sa liste que l'huissier lisait à la porte. On entrait à mesure et par le petit escalier, on montait dans les petits cabinets. J'y soupais donc pour la première fois à Versailles, car il y avait 7 ou 8 ans que j'y avais soupé par deux fois de suite. On l'a vu, la dernière fois qu'il en avait parlé, c'était en 1739. Ça colle, il a une bonne mémoire. Étant monté, l'on attendait dans le petit salon. Le roi ne venait que pour se mettre à table avec les dames. La salle à manger était charmante et le souper fort agréable, sans gêne. On n'était servi que par deux ou trois valets de la garde-robe qui se retiraient après avoir donné ce qu'il fallait que chacun eût devant soi. La liberté et la décence m'y parurent bien observées. Le roi était gai, libre, mais toujours avec une grandeur qui ne le laissait pas oublier. Il ne paraissait plus du tout timide, mais fort d'habitude, parlant très bien et beaucoup, se divertissant et sachant se divertir. Il paraissait fort amoureux de Madame de Pompadour, sans se contraindre à cet égard, ayant toute honte secouée, et paraissant avoir pris son parti, soit qu'il soit étourdi ou autrement, ayant pris les sentiments du monde là-dessus, sans s'écarter sur d'autres, c'est-à-dire s'arrangeant, comme bien des gens font des principes suivant ses goûts ou passions. Voilà comment cela me parut, mais tout cela est si douteux qu'il est bien difficile de discerner la vérité. Il me parut aussi que ce particulier des cabinets ne l'était pas absolument, ne consistant que dans le souper et une heure ou deux de jeu après le souper, et que le véritable particulier était dans les autres cabinets, où très peu de anciens et des intimes courtisans entraient. Nous fûmes 18 serrés à table, à savoir, à commencer par ma droite et de suite, M. Livry, donc qui était le premier maître d'hôtel du roi, Madame la marquise de Pompadour, le roi, Madame la comtesse d'Estrade, la grande amie de Madame de Pompadour, le duc d'Ayen, c'est-à-dire le fils du duc de Noailles, la grande Madame de Brancasse, le comte de Noailles, M. de la Suze, dit le grand maréchal, le comte de Coigny, la comtesse d'Aigmont, M. de Croix, dit Pilot, le marquis de Renel, le duc de Fitz-James, le duc de Breuil, la princesse de Turenne, M. de Crillon, M. de Voyer d'Argenson. Le maréchal de Saxe y était, mais il se mit à table, ne se mit pas à table, ne faisant que dîner, et il accrochait seulement des morceaux, étant extrêmement gourmand. Le roi, qui l'appelait toujours comte de Saxe, paraissait l'aimer et l'estimer beaucoup. Il lui répondit avec une franchise et justesse admirable. Madame de Pompadour lui était tout à fait attachée. On fut 2 heures à table, avec une grande liberté et sans aucun excès. Ensuite, le roi passa dans le petit salon, il y chauffa et versa lui-même son café, car personne ne paraissait là et on se servait soi-même. Il fit une partie de comète avec Madame de Pompadour, Coigny, Madame de Brancasse et le comte de Noailles, petit jeu que le roi aimait. Madame de Pompadour le haïssait et paraissait chercher à l'en éloigner. Le reste de la compagnie fit 2 parties, petit jeu. Le roi ordonnait à tout le monde de s'asseoir, même ceux qui ne jouaient pas. Je restais appuyé sur l'écran de cheminée à le voir jouer, et Madame de Pompadour le pressant de se retirer et s'endormant, il se leva à une heure et lui dit à demi-haut et gaiement « Allons, allons nous coucher ». Les dames firent les révérences et s'en allèrent, et lui fit aussi la révérence et s'enferma dans ses petits cabinets. Et nous tous nous descendîmes par le petit escalier de Madame de Pompadour, où donne une porte, et nous revîmes, ravâmes, par les appartements à son coucher public à l'ordinaire, ce qui se fit tout de suite. J'ai tenu à vous mettre toute la description, parce que là vous avez une vraie description de cette convivialité, et je pense que c'est quand même assez intéressant de voir tout cela. L'azur a été l'artisan de cette convivialité à la française, mais il semble y avoir eu deux époques dans ces petits soupers, avant et après 1741, c'est-à-dire avant la mort de Madame de Mailly, la mort de Madame de Vatigny. La première semblait plus spontanée, plus informelle, où le choix des invités se faisait sur l'instant. La seconde, plus institutionnalisée et qui vit la naissance du service des petits appartements et que nous a décrit le duc de Cruy, faisait référence aux habitudes du roi, réunissait un cercle plus cohérent et régulier. L'azur n'a pas connu cette seconde période et mourut presque délaissé le 22 juin 1748 au Grand Commun, sans même avoir pu servir la nouvelle grande favorite depuis 1745, la marquise de Pompadour. Son épouse, Anne Geste du Buisson, pourtant séparée quant au bien depuis le 18 septembre 1703, fit dresser le 27 juin suivant son inventaire, je cite, « en qualité de créancière de la succession du dit sieur l'azur, son mari, pour raison de ses reprises de dons ». Vous savez qu'à l'époque, les contrats de mariage prévoyaient un douaire pour la femme si le mari venait à mourir avant, et il y avait des principes, on pouvait prélever sur avant inventaire une certaine somme sur la prisée des meubles. Elle reçut même une pension que vous avez ici de 1200 livres le 27 août 1748, je cite, en considération des services de son mari à commencer du 29 juin, donc une pension rétroactive. S'il avait quitté les arcanes du pouvoir, le sommelier de Panétribouche avait gagné en revanche en espace, puisque l'appartement qu'il occupait à sa mort se distribuait entre la cour intérieure, donc on va revenir, hop, entre la cour, donc je vous dis, on est là, hop, se distribuait entre la cour intérieure, par là, et parce qu'on a des fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure d'après l'inventaire après décès, donc je ne sais pas où est-ce que ces fenêtres donnent sur la cour intérieure, mais on a des descriptions de pièces qui nous disent qu'il était sur la cour intérieure, sachant qu'ici vous êtes sur des plans qui sont des plans du premier grand commun de 1686, donc on est là en 1748, hein. Donc il occupait un appartement entre 3e et 4e niveau composé de 10 pièces principales, dont sa chambre à coucher située au 3e sur la rue et une cave en entresol. Il y vivait au milieu de ses souvenirs et l'on y trouvait de nombreux ustensiles de cuisine, mais aussi des portraits de Louis XV. Malgré cette disparition, le nom l'azur, vous avez ici une généalogie issue de son père en ligne directe, ne quitta jamais complètement le service royal, puisque ses cousins et neveux continuèrent à s'illustrer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime dans la maison Bouche du Roi et même au-delà. L'inventaire se faisait également à la requête du financier richissime François-Abraham Marie Mouchard, donc c'est son gendre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était simple sommelier en survivance, qui était désormais qualifié de receveur général des finances de Champagne et qui était veuve depuis le 6 janvier 1740 d'Anne-Louise Lazur, habile à se porter héritier au nom de ses deux filles, d'entre lui et de sa défunte épouse. En l'occurrence, Marianne Françoise et Anne-Louise, nées respectivement le 4 octobre 1737 et le 10 octobre 1738. Et clin d'œil amusant, la première, donc Marianne Françoise Mouchard, épousée le 1er mars 1753, Claude de Beauharnais, de 20 ans son aînée, et elle allait rester pour l'histoire sous le nom de Fanny de Beauharnais, donc que vous voyez ici, donc femme de lettres, tenant brillamment salon à la fin du XVIIIe siècle, et parente donc de la future impératrice des Français. Donc vous voyez ces évolutions, la petite fille de l'azur, donc était le cuisinier de Louis XV, qui devient Fanny de Beauharnais et qui est la tante un petit peu éloignée, mais je me suis amusé à faire la généalogie pas si éloignée que ça, puisqu'elle est mariée à Claude de Beauharnais, qui est donc liée au Beauharnais, et on retrouve. Voilà. Donc j'ai terminé, pardonnez-moi pour ce côté un petit peu décousu de la conférence, mais en tout cas je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, et je vous remercie pour votre attention.
C'était son gendre qui a repris sa charge.
En fait, son gendre était en 1736 simple survivancier de sa charge. Mais les charges à la cour, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'accès au roi. Et une fois que vous avez accès au roi, c'est d'avoir des charges beaucoup plus intéressantes. Il est devenu financier. Il était financier et c'est le fait qu'il soit financier. Ça fait partie de toutes ces évolutions stratégiques qu'on voit au cours du XVIIIe siècle, où on voit des montées de gens qui épousent des filles d'officiers de la maison du roi et qui sont déjà un petit peu un pied dans la finance, mais la finance est bannie à la cour. C'est quand même assez tabou et ça leur donne un accès à la cour d'obtenir des marchés. Ils deviennent richissimes et ce Bouchard est quelqu'un qui est riche à millions, qui a hôtel particulier sur la place Vendôme, et ce genre de choses. Donc ce sont des gens richissimes, mais de plusieurs millions de livres. Ce sont comme les Beaujon, ce sont comme des gens comme ça. En fait, ils sont devenus mouchards de Chabon, ce qui est beaucoup plus chic que les mouchards tout court.
Les questions peuvent continuer après, mais cette fois-ci pour l'inverse, dans la même temps. Les ouvrages de Patrick Adina sont aussi là, si vous voulez nous consulter, nous ajouter.